Bonjour, pouvez-vous vous présenter?
Philippe Klein, ancien président du club alpin de Mazamet et président du comité départemental des clubs alpins du Tarn.
Didier Alran, je suis un retraité, mais j'étais au club alpin, effectivement, mais retraité dans le monde industriel, où j'ai effectivement initié ce problème de passerelle, mais j'expliquerai après les raisons pour lesquelles c'est venu.
Comment avez-vous eu l'idée de construire une passerelle?
Eh bien, je laisserai plutôt la parole à Didier, qui est à l'initiative de ce projet.
Oui, alors, il faut voir cette histoire de passerelle n'est pas quelque chose qui est venu d'une idée. Ça a du sens avec, je dirais, mon histoire personnelle. Familial et industriel. Parce qu'il se trouve que je suis donc d'une famille d'industriels et qu'on avait une usine, on avait deux usines, une usine qui était juste au parc dessous, là, vous avez un parking, et ça c'était une des usines, l'usine Alran, et l'autre usine est beaucoup plus importante, elle est en bas à l'école Jeanne d'Arc. Alors j'expliquerai après tout ça. Hein? Vous voulez que je continue parce que c'est à développer. Bon, alors, comme je le dis, ça tient à mon milieu familial. J'ai eu la chance d'avoir une grande famille, où on était une famille donc d'industriels, où mon père avait acheté deux usines. Mais en réalité, c'était quelque chose qui datait de mon grand-père, David Alran. C'est pour ça que d'ailleurs la société s'appelle D. Alran. Alors c'est pas Didier, mais c'est David Alran, qui était mon grand-père, qui a fondé, non pas l'usine, mais un petit atelier de travail rue de la Vanne. Et c'est mon père qui l'a développé après avoir fait des études comme vous, et surtout des études plus poussé à l'époque, c'était à l'école pratique de Mazamet. Et l'école pratique de Mazamet, elle a une histoire très importante avec le milieu industriel. Si vous voulez, je peux en toucher quelques mots. Parce que l'école pratique était, avant l'école pratique, c'était une école d'éducation nationale. Je ne donnerai pas exactement les termes nécessaires, mais cette école pratique a été extrêmement importante pour Mazamet. C'est une école qui a été renforcée, qui s'est développée par justement des industriels locaux qui se sont réunis, notamment une personnalité qui avait un délénage important, qui s'appelait Charles Sabatier. Alors il y avait une usine qui se trouvait sur le Linoubre, qui a été très importante, et il y avait l'intelligence et l'ingéniosité de voir que le délainage était en train de se construire d'une manière assez forte, mais que si on voulait le développer encore d'une manière beaucoup plus importante, il fallait pour cela former des personnes, un encadrement et former un enseignement pour ça. Et ça a été une concertation de tous les industriels pour voir comment on pouvait transformer cette école avec toutes les nécessités qu'il serait bon d'avoir dans les usines. Et donc il y a eu une collaboration des industriels pour faire toutes les démarches, pour trouver des appuis à l'échelon national et former les cadres de Mazamet, dont mon père a été issu de cette école pratique. Donc il fallait principalement avoir des personnes qui aient la connaissance des langues, de la comptabilité et après de tous les métiers qui intéressaient la possibilité de développer le cadre, les besoins plutôt d'une usine. C'est-à-dire qu'il y a eu des ateliers de mécanique, de serrurerie, il y a eu un laboratoire de chimie, un petit laboratoire de chimie, pour former tout l'ensemble de personnalités, des cadres, des besoins, de la nécessité pour l'encadrement de l'usine. C'est ça qui est fait de Mazamé, effectivement, un lieu où il y a eu un entrepreneuriat avec de l'ingéniosité pour arriver à comprendre que si on voulait développer tout ça, il fallait un encadrement, il fallait former et il fallait un enseignement. Et l'école pratique de Mazamé a eu une cote très importante où il y a eu tout un tas d'élèves qui ont gagné des grandes écoles et qui avaient un côté, mais alors extrêmement pratique. Et ça, c'était très important. Voilà. Alors, mon père est issu justement de cette école pratique où il a eu cet enseignement qui lui a permis d'avoir des langues, connaissance de l'anglais, la comptabilité. Il était très bon en calcul mental, ce qu'on ne fait plus maintenant, vous le savez, parce que tout le monde, là, qu'est-ce que vous avez ? Quand on demande quatre chiffres à faire, qu'est-ce qu'ils font ?
Téléphone.
Mais ça allait encore beaucoup plus vite avec la tête, quand on sait bien la faire marcher. Souvenez-vous de ça, c'est très important. Vous avez la possibilité, quand on fait des calculs de tête mentale, mon père dans l'usine avait des courtiers qui venaient proposer des achats de matières et ils donnaient quelques éléments, notamment du prix, en fonction du volume des éléments, et en l'espace d'un rien, en quelques minutes, tout de suite, il voyait tout de suite le résultat, et il disait oui ou non, en fonction du calcul tout de suite qu'il avait fait, pour voir la matière qu'il achetait, le prix, et de savoir ce qu'il pouvait faire pour le vendre, pour faire tourner à la fois avoir la matière, l'acheter, la transformer. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important de savoir qu'autrefois, c'était comme ça que ça se faisait. Voilà. Alors, je situe donc l'histoire de l'usine. L'usine, donc, était en bas, rue de la Vanne. La rue de la Vanne, ça se trouve, vous voyez où est l'école Jeanne d'Arc, vous situez. La rue de la Vanne, il faut se dire qu'à l'époque, c'était la zone industrielle de Mazamé. Il y avait 5 mégisseries dans cette rue, et un atelier de maroquinerie, et à côté un atelier de tissage. Tout ça, c'était au cœur de la ville. Alors j'ai des cartes qui permettraient de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, tout ça, j'ai été baigné là-dedans, j'ai eu ça, j'ai fait des études, donc. J'ai fait des études à l'école de tannerie, pour rentrer dans l'usine. J'expliquerai ça d'une manière un peu plus longue, parce qu'il y a eu des étapes différentes où j'avais envie de faire autre chose et j'ai suivi cette voie qui m'était facile, parce qu'à l'époque, je le dis, c'est une petite parenthèse, mais c'était important quand même, à l'époque, c'était les années 60, il ne faut pas oublier qu'en France, il y avait la guerre d'Algérie et que j'ai failli partir à la guerre d'Algérie, si jamais je ratais un passage, un niveau d'études, je partais en Algérie. J'avais un frère qui était là-bas, qui a souffert énormément. Donc j'avais les éléments et j'avais la possibilité de m'inscrire tout de suite dans cette branche sur laquelle je n'avais pas pensé. Enfin, ce n'était pas plutôt ma volonté, mais j'y suis allé parce que j'étais sûr de ne pas aller en Algérie. C'est une petite parenthèse. Voilà, c'est comme ça. Et je suis rentré dans l'usine où il y avait déjà un développement assez important de l'affaire. Il y avait plus de 55-60 personnes. Et là, donc, j'ai appris à connaître l'usine. Mais on avait l'usine rue de la Vanne et l'usine au Moulin de Loul. Je pourrais vous le montrer parce que j'ai la carte, je vous montrerai ça. C'est deux lieux qui sont marqués dans l'histoire de Mazamé. Je vous les montrerai. Vous voulez les voir ? Non, je vous les montre.
N'hésite pas à le regarder droit dans les yeux.
Je fais.
Avec deux chevaliers en plus. Parce que j'ai plusieurs documents, mais ça, je vais vous montrer. Ça, c'est la carte. Alors, ça vous intéressera. Je viens de récupérer parce que j'ai une carte qui est plus petite, mais c'est pour vous montrer l'intérêt. Vous êtes de la Bastide et vous allez voir que l'histoire industrielle dont je vous parle, elle est très importante sur le bassin de la vallée du Toré. Voilà. Pour vous montrer ça, c'est très important. C'est l'histoire industrielle de Mazamé qui est faite en 48, 1948. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des affiches qui montrent que le centenaire du délainage à Mazamé, qui était reconnu à l'échelon mondial, a été fêté en 1951. Donc c'était 2 ans avant. Et c'est monté après beaucoup plus important. Alors cette carte, elle est importante parce qu'elle montre que le tissu industriel, c'est toute la vallée du Toré. Ça va de la Bruyère à la Bastide. Et c'est pour vous montrer que nous avons des liens très forts parce que tout ça... Il y avait une différence, des spécificités un petit peu, mais il y a des usines sur toute la vallée du Toré. Il y en a sur, bien sûr, la vallée de l'Armette que vous voyez là, et en même temps sur l'Arne, sur l'Arne, le pont de l'Arne.
Puis la tire, si vous voulez.
Voilà. Comme alors, ça, voilà. Alors, je vous montre, pour vous montrer ça, pour vous dire que. Dans le cadre du délainage, le nombre exact, je l'ai en tête en gros, hein. Il y a à peu près 146, je ne donne pas le nombre exact, mais ça rôde à peu près. Délainage et lavage, à peu près 150 usines. La mégisserie, ça je le sais un peu plus. Quand je suis rentré, moi, beaucoup plus tard, il y en avait 46, là il n'y en a pas, peut-être pas tout à fait autant, je ne sais plus, je ne crois pas tout à fait. Et dans le domaine du textile, à peu près, c'est pareil, il y en a à peu près autant, il y en a à peu près 150. Alors, c'est réparti, tout ça, sur la vallée, entre la Bastide, entre la Bruyère et la Bastide. Ça vous montre que nous avons des liens importants pour la connaissance de la vallée, le bassin du vallée du Toré. Alors, ça s'est développé d'une manière très importante jusqu'aux années à peu près 1980. Ça a augmenté, il y avait encore plus. Alors, il y en a qui ont des constructions qui se sont faites et en même temps une diminution. Voilà, c'est pour vous montrer ce bassin industriel. Donc c'est extrêmement important au point de vue activité industrielle. Toute la vallée était baignée dans tout ce qui était la laine, textile et la peau.
Hein ? Alors à partir de cette situation... Pardon.
Vas-y. J'ai plus la formulation, madame. Et du coup, c'est quoi le lien avec la passerelle ?
Le lien avec la passerelle. Très bien. Mais le lien avec la passerelle, c'est parce que... Une question qui est très pertinente. Mais le lien avec la passerelle, c'est parce que j'ai vécu toute cette histoire industrielle. J'ai pris ma retraite... En 2003, il faut dire que l'activité industrielle comme je vous l'ai dit, s'est développée jusqu'aux années 80. Et à partir de 80, déjà, les délainages commençaient à souffrir. Alors, pour plusieurs raisons, dans l'habillement, autrefois, c'était les matières naturelles. C'était tout ce qui était la laine, le coton, le lin. Tout ça, c'était pour produire les... Et par le développement des connaissances de tout ce qui est la pétrochimie et tout, sont rentrés les éléments de produits synthétiques. Donc, il y avait la concurrence. La laine, On ne l'a pas vu comme ça, d'une manière naturelle, mais tout ça, ça a fait qu'il y avait des mélanges qui se faisaient, des mélanges de produits pour faire du textile. Et donc, il y avait une moindre demande. D'autre part, c'était lié en même temps avec les histoires de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre dans les pays extérieurs était moins chère. Donc, tout ce qui était facturé, travaillé sur la Bastide et ailleurs, tout ça, ça petit à petit, c'est parti. Et toutes ces histoires de développement industriel a diminué. Bon, alors, pour dire que j'étais... Attention, je fais partie des années... Je suis né pratiquement au début de la guerre. Au début de la guerre, pas tout à fait. Je suis né en 1941. Donc, vous devez le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les années 40-45.
La guerre mondiale.
Hein?
La guerre mondiale, laquelle?
La deuxième.
Oui, exactement. Bon, alors, je suis né dans cette période... je n'ai pas connu, bien sûr, puisque j'étais tout petit, mais au début de cette période, tout ce qui était les activités, je dirais, industrielles locales, marchait. Bon, la période de la guerre, évidemment, a fait donc une période un peu bâtarde, avec les histoires un petit peu de tout ce qui se passait, au point de vue... je dirais, vie normale était perturbée. Mais tout de suite après la guerre, aux années 40-45, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un besoin après la guerre, tout de suite, de construire, de développer. Des besoins ont été faits. C'est toujours pareil. Après une guerre, il faut reconstruire. Il y a de l'élan. Et donc, on reconstruit tout ça. Ça s'est développé d'une manière importante. Alors, moi, j'ai vécu... je suis rentré dans l'affaire industrielle après avoir fait mes études, pas évidemment à l'âge que je vous ai dit. Je suis rentré, j'avais 24 ans et demi, 24 ans après mon service militaire. Je suis rentré ici aux années dans l'usine du Moulin de Loule, ici, aux années 65. J'ai vécu donc depuis 65, 64, mais avec... comme mes parents avaient, mon père avait l'usine, effectivement, on allait souvent dans l'usine. Donc, j'ai connu cette activité de l'usine du Moulin de Loul des années 65 à 70, où on a fermé l'usine parce qu'elle ne correspondait plus à cette activité. Je ne détaille pas, mais si vous voulez...
Mais peut-être pas trop, parce qu'il y a plusieurs groupes. Alors nous, on voudrait vraiment faire le lien. On va faire tout un travail autour de la passerelle.
Alors, je vais
on voudrait
écourter.
Vraiment savoir comment vous avez stylé.
Voilà, je vais écourter ces éléments.
Déjà,
que je pourrais... C'est un peu la base de l'histoire industrielle locale.
Oui, là, on a bien le contexte. Et du coup, maintenant, la passerelle, quoi. Comment vous avez cette idée? Comment ça a commencé?
Alors, ça a commencé parce que j'ai été à la retraite en 2003. J'ai vécu toute cette histoire industrielle très importante, puisque j'ai passé 38 ans et demi toute ma vie de professionnelle. Et donc, j'ai vu cet effacement du milieu industriel. Et comme tout le monde, ça m'a choqué, cette histoire. Ça m'a choqué, je le vivais d'une manière difficilement, parce qu'on voyait que la vie, attention, de la ville, l'activité et tout se ressentait parce que tout ça, ça refaisait. Bon, 2003, donc, la retraite, j'ai pris une année sabbatique. Il faut dire que pendant la vie professionnelle, j'ai beaucoup voyagé, professionnellement, et en même temps, je voyageais aussi à titre personnel, parce que je suis un passionné de nature et que j'allais me balader partout. Bon, et partout, et même ici, je connaissais, je voyais tout ce coin. Il se trouve que dans cette histoire-là, j'étais en même temps au Club Alpin, où c'est mon père qui a fondé le Club Alpin. Je me suis mis là-dedans, j'ai découvert beaucoup de choses au sein du club, les voyages et tout. Et j'ai su qu'il y a eu... Enfin, j'ai été convoqué aussi en même temps par la mer, à l'époque de ma retraite, il y avait la mer qui jouait, qui avait pris la relève de... Vous avez entendu peut-être de M. Bourguignon, voilà, qui a été maire de Mazamé. Il est mort et la relève a été faite par Suzanne Montaigne. Suzanne Montaigne, donc, prenait la relève de Bourguignon au moment où, justement, il y avait la conscience de tout ce qui se baissait. Enfin, l'activité était en régression. Elle a convoqué un bureau d'études qui s'appelait Sommival, qui a fait une recherche pendant 6 mois sur l'histoire, comment on pouvait rebondir après l'effondrement de la vie industrielle. Hein ? L'effondrement de la vie industrielle, quelle était la possibilité de sortir de là ? Et ce bureau d'études a fait toute une enquête sur les gens. Et au final de ce bureau d'études, après 6 ou 7 mois, on a été convoqué à la salle des congrès avec toutes les responsables des associations locales pour voir quelle était la possibilité, comment on pouvait, quel était le sentiment qui permettait de trouver une issue pour sortir de là. Là-dessus, il y a eu un brainstorming avec un compte-rendu qui ont trouvé que dans l'issue possible pour Mazamé, pour rebondir, c'était le tourisme vert. Hein ? Moi, donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des éléments importants. Et en 89, effectivement, avec ma famille, on est allé au Canada, j'avais vu un site important où il y avait des passerelles qui étaient un centre important qui attirait énormément de monde. Bon, alors j'ai vu ça, puis après je reviens en France, c'était en 89, donc avant ma retraite.
On va pas refaire toutes les sens, parce que le temps tourne, après quand eux ils vont tout réécouter, ça va faire beaucoup.
Donc, beaucoup trop.
Votre voyage vous a donné alors, cette idée en gros.
J'ai eu cette idée qui a été confirmée par d'autres endroits, notamment en France et donc à l'extérieur. Mais j'étais, je connaissais parfaitement le coin. Je me baladais sur le coin et j'étais président du club alpin. Et voyant ça, je m'étais dit, je m'occupais des problèmes de randonnée, je me suis dit, il faut se réapproprier les sentiers autour de notre coin. Alors, nous avons tout un tas de sentiers, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas pratiqués, les raisons se comprenaient. On était dans une vallée, vous savez comment ça s'appelle la route là ? La route des usines. Et l'Arnette à l'époque, c'était un égout. Toutes les usines, c'est très important à comprendre, toutes les usines étaient là, toutes les personnes travaillaient là-dedans. On n'allait pas se balader dans un endroit où on travaillait, où ça rappelait le travail et en plus ça puait. Donc, tout ça, c'était fini, puisque donc ça s'est effondré aux années 90. Je parle donc des années 2003, et moi, j'ai été président en 2005, mais tout ça, j'avais ça dans la tête. Je me baladais là, et puis en face, là, en regardant un sentier, là, moi, j'étais toujours admiratif de ce coin d'Opoul et des gorges de l'Arnette, et notamment de l'endroit où c'était. Et j'allais en face, en regardant les sentiers qu'on voulait se réapproprier, ce coin me plaisait, et j'allais me planter. Alors ça, je pourrais l'expliquer, le voir, le montrer, mais ultérieurement, si vous voulez, si ça vous intéresse, sur un rocher qui était en face de la passerelle, et nous avions dégagé, enfin j'avais un ami avec qui j'étais, on avait dégagé donc un coin pour visiter au-dessus, ça sera un sentier qui sera connu plus tard, un coin, et j'allais me planter sur le rocher de Saint-Sauveur en face, et je regardais en face, donc aux poules, je voyais l'autre côté, et j'ai dit à mon ami, tu vois, mais là je vois une passerelle. Et là, mon ami, il dit, mais tu rêves, Didier. Alors, moi, j'avais ça dans la tête, j'avais vu cet élément et ça me préoccupait. Et donc, j'ai expliqué que Mazamet, l'environnement, était pris par tout le monde. Je me suis dit, c'est un truc qu'il faut faire.
Super. Vous avez des questions ?
À quoi avez-vous contribué dans la construction de la passerelle ?
Mais j'ai fait toute l'étude. J'ai passé 9 ans, à prospecter toutes les personnalités locales pour parler de ce projet, parce que j'étais avec ce coin. On a fait venir un bureau d'études d'une manière gracieuse, parce qu'on a expliqué ça. J'expliquerai les raisons, comment ça s'est passé. Ces personnes sont venues et j'ai donné les clichés de cet endroit pour dire « faites-nous une étude ». C'est un élément d'ailleurs qui était une personne qui était passionnée par ce coin aussi, qui en même temps était intéressée. On a réussi, les personnes sont venues, j'aurais montré l'endroit et ils ont dit ah, « le coin vaut vraiment la peine ». Vaut vraiment la peine parce que c'est à proximité de la ville, il y a en face ce rocher, le site est exceptionnel.
Bon. T'as fini toutes tes questions ?
Merci, monsieur.
Est-ce que
Merci.
Tout le monde a fini ses questions ?
Oui, madame.
Pour la genèse, on est pas mal.
Oui.
Ok.
Très bien.
Alors, attends,
j'ai peut-être trop développé le côté.